Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter présente Fantastic Mr. Fox, un film de Wes Anderson au cinéma le 17 février. Bienvenue dans l'univers fantastique de Mr. Fox. Sa vie est fantastique. Sa femme est fantastique. Ses voisins, trois fermiers prêts à tout pour le capturer, ne sont pas si fantastiques. Mais ils vont bientôt découvrir que ce renard n'est pas n'importe quel renard. Retrouvez Fantastic Mr. Fox dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter.
La différence.
Et sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet avec Là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour, je suis stupéfait actuellement, vu que je suis une personne âgée de voir le bazar qu'il y a dans les écoles. C'est la sévérité qu'il fallait garder que nous avons eue pendant 50 ans. Aujourd'hui, les gosses font des malveillances partout. Ils s'attaquent aux gens, etc. C'est un désastre. Moi, j'ai 88 ans. Quand je vois le bordel et la différence de discipline que nous avions dans le temps, mais enfin, parce que j'étais à l'école supérieure, j'ai mieux vous dire qu'on ne bronchait pas à 17 ou 18 ans. Dans les écoles toutes simples de village, on ne bronchait pas non plus. Alors, les instituteurs se plaignent, mais c'est eux qui ont foutu la merde en jetant leur blouse aux orteils et en disant « il est interdit d'interdire ». Voilà.
J'ai vu sur M6 cette semaine deux émissions, 100% Mag et Capital, qui ont expliqué comment faire des économies pour des travaux de rénovation. C'était simple, il fallait utiliser des apprentis à un coût nettement inférieur aux artisans, voire gratuit. J'aimerais savoir comment des artisans réagissent à ce genre de soi-disant solution miracle, comment on peut parler de main-d'œuvre gratuite en toute impunité, à une heure de grande écoute, et même la présenter comme un progrès. Le summum est atteint dans ces émissions où on voit les apprentis faire le ménage dans les appartements rénovés, ce qui, je pense, ne fait pas vraiment partie de leur formation, ou alors déguster des pains au chocolat en guise de paye. Je suis pour la formation des jeunes, mais si on la présente comme sous une manière de sous-payer du travail de pro, je suis vraiment dégoûtée. Bonne journée, au revoir.
Bonjour tout le monde. Suite au sommet de Copenhague qui n'a pas abouti à grand-chose, le président Evo Morales, donc de Bolivie, a proposé de réaliser une consultation au peuple du monde pour arriver à un accord qui pourrait essayer de sauver notre planète des abus du capitalisme. Les questions du référendum sont les suivantes. Êtes-vous d'accord pour rétablir l'harmonie avec la nature en reconnaissant les droits de la terre-mère ? Êtes-vous d'accord pour changer ce modèle de surconsommation et de gaspillage qui découle du capitalisme ? Êtes-vous d'accord sur le fait que les pays développés doivent réduire et réabsorber leurs émissions de gaz à effet de serre chez eux pour que la température ne monte pas de plus de 1 degré ? Êtes-vous d'accord pour transférer l'argent dépensé dans les guerres vers un budget destiné au changement climatique et qui serait supérieur à celui de la défense ? Êtes-vous d'accord pour la création d'un tribunal international pour la défense du climat au sein des Nations Unies afin de juger ceux qui ne respectent pas la terre-mère ? Évidemment, personne ne nous a parlé de ce référendum destiné au peuple du monde entier. Donc si ça vous intéresse, vous tapez « référendum mondial sur le changement climatique » et vous tomberez sur un site internet où il y aura le lien pour répondre aux questions et puis enregistrer vos noms et prénoms. Je vous remercie beaucoup. C'est Ariel de Vaucluse.
Suite à la fermeture de l'entreprise Suller à Montbrison, une manifestation est organisée mercredi à 10h au départ de l'usine pour lutter contre la fermeture de celle-ci, décidée par les maîtres du capitalisme. Donc venez nombreux, si vous habitez Montbrison ou les alentours, 10h devant le siège de l'usine Suller à Montbrison, zone des Granges. Merci.
Togo, 4 mars 2010, élection présidentielle. Cette fois-ci, messieurs les dictateurs, messieurs les mercenaires, politiciens véreux français qui avaient des intérêts et du business au Togo et en Afrique francophone de la France-Afrique, cette fois-ci, vous ne passerez pas. Cette fois-ci, c'est le peuple qui va gagner. Nous avons réussi à créer la coalition des principaux partis démocrates face à votre dictature inique et monstrueuse. Nous totalisons plus de 75% des voix. Alors vous pouvez toujours mettre la tête de Kofi Annan à prix et essayer de le tuer. Vous pouvez encore molester dans les bureaux de vote les partis d'opposition. Vous pouvez encore essayer de nous verrouiller, de nous soumettre. Vous ne passerez pas. C'est le peuple togolais qui gagnera ces élections. C'est l'Afrique qui se libérera le 4 mars prochain. Vous pouvez tout essayer, vous pouvez encore truquer comme vous le faites avec la Commission nationale électorale qui est à la botte du pouvoir. Vous pouvez essayer de falsifier les listes électorales. Vous ne passerez pas. Alors, chers AMG, chers citoyens français, soutenez la libération du peuple togolais le 4 mars prochain. Soutenez-nous, faites parler du Togo, parlez autour de vous et informez de cette situation inadmissible de 43 ans de dictature françafricaine. Il suffit, maintenant, ça suffit. Laissez-nous vivre en paix et libres. Au nom de tout le peuple togolais, des 5 millions d'individus qui vivent enfermés dans leur propre pays. Merci.
J'ai enfin compris ce que c'était la crise. 8 milliards de bénéfices chez Total, autant chez Sanofi. Et la crise, c'est de faire des milliards de bénéfices et de licencier. Voilà. Allez, qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Et surtout, j'espère que la crise, ça va être la crise des nerfs des salariés et de tous les Français. Parce que là, il y en a vraiment ras-le-bol. Au revoir.
Oui, mais le libéralisme est inscrit dans la nature humaine, parfois violente, parfois injuste. Fin de citation. Citation de qui ? Ah ! Devinez, quelqu'un que vous avez entendu tous les matins pendant 22 ans sur France Inter. Eh bien, c'est une phrase de Jean-Marc Sylvestre. Et pendant 22 ans, Jean-Marc Sylvestre, tous les matins, sur France Inter, a développé cette idéologie qui est celle du néolibéralisme. Eh oui, il disait, par exemple, « Le libéralisme n'est pas une construction intellectuelle comme le marxisme. Le monde a été créé ainsi. » 22 ans dans vos oreilles, tous les matins, au saut du lit, vous avez entendu cette voix et ces idées, parce que c'est tout ça, il s'agit bel et bien d'idées. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui, alors que nous allons dans la Drôme, chez un gars très sympathique qui fait des pêchers, qui fait des fruits, qui s'appelle Régis, à Châteauneuf-sur-Isère, exactement. Et quel rapport surtout maintenant avec celui qui est la bête noire de Régis. Non, c'est pas Jean-Marc Sylvestre, sa bête noire. Il est allé carrément à la source et à l'inspirateur, probablement, de Jean-Marc Sylvestre, même si je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler de ses inspirateurs et de ses maîtres, mais probablement qu'il l'était et qu'il l'est toujours. Je veux parler de Milton Friedman. Oui, Milton Friedman. Milton Friedman, grand intellectuel, grand économiste, prix Nobel américain, 1912-2006, il nous a quittés il y a peu de temps, en 2006, et qui est le père, peut-on dire, ou l'un des pères, mais enfin l'essentiel, le plus grand du néolibéralisme. Et Régis Aubenas, à Châteauneuf-sur-Isère, sur son tracteur, parmi ses péchés, n'en peut plus de détestation envers ce Milton Friedman. Comment tout cela est-il possible ? Eh bien, c'est un reportage de François Ruffin que nous vous proposons aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut les AMG. Le repère de Nice se tiendra à sa nouvelle adresse, mercredi 17 février à 19h, au café à Falabrac Fabrique, 3 rue Benoît Bunicot, dans le Vieux-Nice. Le thème sera « Pétrole, la fête est finie ». On y parlera de pic pétrolier avec le professeur Nicaise, de ville en transition, de relocalisation et de décroissance. Retrouvez la nouvelle adresse sur le site de l'émission, dans les commentaires. Ciao, viva!
Bonjour les amis, le 4e Café Repère de Savigny-sur-Orge se tiendra ce mercredi 17 février. Les propositions que nous faisons, c'est nos libertés sont-elles menacées par les nouvelles technologies? Parlons-en. C'est à 20h30 au restaurant Le Jasmin, parking Joliot-Curie, à côté de la gare. L'entrée est libre et on peut y boire et manger. À bientôt.
Bonjour Daniel et bonjour tous les amis. Ici c'est le repère de La Rochelle. Alors je vais vous signaler que notre prochaine réunion se tiendra vendredi prochain, 19 février, à partir de 19h, au 4 de la rue des Trois Fuseaux. Merci.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Excusez-moi de vous déranger. Oui. Je rencontrais un agriculteur qui, bon, au cours de la conversation, m'a fait part des déprédations subies dans ses champs
oui.
par une bande qu'il estime organisée
oui.
autour d'une personne dont il connaît le nom qui s'appellerait Friedman.
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 Pas au courant du tout. Pas au courant. Non.
La force des idées, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir qui est Friedman voilà. pour être Friedmanisé.
Exactement.
Quoi.
Pas au courant.
Alors la faute à Friedman ou pas ?
Merci.
Je sais pas si c'est la faute à Friedman.
Merci.
Friedman.
Friedman.
Friedman. Vous n'avez pas de prénom, Friedman ?
Certains Milton.
C'est les Américains qui démarquent, là.
Salut, c'est Damien Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec François Ruffin et Régis Aubenas, la force des idées.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour.
Allez-y, entrez. Entrez, mettez-vous à l'abri.
Régis Aubenas avec. En vert de travail. Et le bonnet, parce que comme il fait froid, le bonnet bien planté sur les oreilles. Alors, il y a le hangar au fond de la cour.
Donc, c'est une mini-usine de conditionnement de pêche, on appelle ça.
Et les champs, ils sont où alors ?
Les champs, ils sont tout autour pour l'instant, parce que il y a la ville qui grignote. Il y a les promoteurs immobiliers qui veulent faire des zones industrielles. En fait, on était les seuls agriculteurs à pas avoir, avec mon frère, à pas avoir voulu vendre. Nous, on avait décidé qu'on voulait continuer à faire des pêches. Alors, c'est un peu con, hein, parce que vaut mieux vendre les terres que faire des pêches. Mais voilà, c'est terrible. Hein. C'est terrible la pression qu'ils peuvent mettre.
D'ailleurs, ils viennent frapper à votre porte.
Bien sûr, ils viennent frapper à la porte une fois, deux fois, trois fois. Et comme ils savaient que les gens étaient en difficulté économique, bon, quelqu'un vient leur faire miroiter un truc génial. Bon, ils se disent, pourquoi pas moi, quoi ? Pourquoi pas moi aussi, ma belle bagnole, mon bon machin, tout ça, quoi ? Bon, c'est tout ça, c'est de l'éphémère, hein. Et aujourd'hui, ben, ça s'est renversé en peu de temps finalement, en un an quoi. En un an, le coup d'arrêt définitif à la pression des promoteurs, c'était quand même la crise financière. Hein. C'est les plus de pognon, donc ils ont arrêté quoi.
C'est grand là, ce qu'on voit comme verger, c'est un grand verger, c'est un petit verger.
C'est un verger moyen, enfin normal. Le verger moyen du département, c'est 15 hectares quoi. Ça permet de dégager un revenu, enfin, ça permettait de dégager un revenu.
Pourquoi ça permettait au passé ?
Ben, parce que depuis 2-3 ans, c'est dur quoi, hein, au niveau économique. Parce que cette année, sur l'exploitation, on a perdu la perte du résultat net, enfin, c'est moins 75 000 euros.
Vous avez perdu 75 000 euros.
C'est moins, le résultat comptabilité, c'est moins 75 000 euros.
Là, c'est parce que les Français, ils aiment plus les pêches. Ils aiment plus vos pêches, les Français.
Non, mais je pense que les Français, ils aiment nos pêches. Hein. La consommation, cette année, elle était meilleure que l'année dernière. Donc, elle est bonne, la consommation. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils allaient gagner beaucoup de sous sur le dos d'autres gens qui travaillent. Quoi.
C'est-à-dire ?
Ça s'appelle les distributeurs. Qui, eux, sont là pour faire un maximum de marge sur les produits. Donc, ils utilisent le fait qu'on est sur un marché, pour ce qui est de la pêche, on est sur un marché européen. On est dans une économie dite libérale. Et comme on est sur le marché européen, ben, moins de 10 ans, c'est l'Espagne. Parce qu'elle a des contraintes sociales, environnementales, tout ce qu'on voudra, plus faibles qu'en France. Et qui fait que ben, c'est elle qui impose le prix, quoi.
Et alors, en perdant 70 000 euros par an, là, vous pouvez tenir combien de temps ben, avec toutes vos richesses ?
Moi, cette année, si on n'arrive pas à redresser la saison, c'est-à-dire si on n'a pas une saison où on arrête de perdre du fric, bah, la boîte, elle s'arrête, c'est tout. En 2010, clé sous la porte, merci, au revoir.
Et on va rentrer parce que moi, j'ai ma main qui est gelée. Ouais. Et votre Mistral, il est bien gentil, là, Mistral. Mais
il est très sympa, le Mistral.
Heureusement que j'ai un casque sur les oreilles. Quoi.
C'est pour ça que j'ai mis le bonnet, moi.
La fin de l'histoire, vous vous souvenez ? La fin de l'histoire, c'était il y a 20 ans. Il y avait un temps, un tout petit peu plus de 20 ans. C'était fini. Voilà, le mur de Berlin était tombé et c'était la fin de l'histoire. Et en même temps que la fin de l'histoire, c'était la fin des idéologies. Par idéologie, à l'époque, on voulait dire l'idéologie communiste qui avait mené à cette catastrophe. Donc les idéologies, eh bien, c'était fini aussi. Plus d'histoire, plus d'idéologie. Et enfin, à l'évidence, l'ordre naturel des choses enfin s'imposait sur cette terre, apportait la paix parmi les hommes à travers, eh bien, le libre-échange, la liberté, la délocalisation, enfin, et tout ce que vous savez, tout ça, c'était terminé. Surtout, il n'y avait plus d'idéologie. Et ceux, évidemment, qui disaient ça, on était absolument pétris d'idéologie. Mais ils arrivaient à nous persuader, et à se persuader peut-être aussi eux-mêmes, que l'unique responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître ses profits. Voilà une phrase, au hasard, de Milton Friedman. Il y en a beaucoup d'autres, je ne crois pas en la démocratie absolue, personne ne croit en la démocratie absolue, personne ne croit qu'il est approprié de tuer 49% de la population, quand bien même 51% voterait cette décision. Une autre phrase de Milton Friedman au hasard. Fixer les prix et les problèmes se multiplieront, laisser les prix se déterminer d'eux-mêmes et les problèmes disparaîtront comme par enchantement. C'était le temps de la mondialisation heureuse, c'était le temps où enfin on avait trouvé le bonheur. C'était une question de temps, encore un peu de temps, et puis tout le monde serait heureux. On a vu que c'était différent. Mais à l'époque où, il y a 20 ans donc, à la fin de l'histoire, à la fin des idéologies, il y a un certain nombre, mais très peu effectivement, qui ont réussi à faire entendre une voix contraire en disant « Mais non, il y a d'autres idées, d'autres mondes possibles, d'autres façons de voir les choses. La Terre n'est peut-être pas vraiment plate. » Ceux-là en ont bavé. Ils étaient peu nombreux. Une petite résistance qui ne ressemblait plus qu'à un filet d'eau par moments, des maquisards, des maranes, comme on voudra. Et puis, petit à petit, quand même, par la force des choses et par les résultats de ces politiques, et puis aussi, quand même, par la force des idées, on s'est aperçu que, voilà, c'était peut-être pas le paradis promis qui était devant nous et que nous étions en train de vivre et de partager. Mais entre ce moment et le moment où ces idées, cette force des idées parvient jusque dans la vie quotidienne, la vie courante, celle d'un, par exemple, de quelqu'un comme Régis Aubenas, avec sa petite entreprise qui fabrique et qui élève des pêchers dans la Drôme, entre le moment où cet homme-là, dans son quotidien, arrive à comprendre d'où viennent les idées qui l'opprime et qui nous opprime nombreux parmi nous, eh bien, il en a fallu du temps. Mais c'est arrivé, et ce paysan a compris ce que c'est qu'une idée, et ce que sont et ce que furent les idées de Milton Friedman, qui a été un des grands penseurs de cette révolution conservatrice néolibérale. Curieux, non ? Intéressant. Alors vous vous dites, oh là, on a compris, oui, oh, ça va être un paysan, comme on en entend dans la basse, j'y suis, quelqu'un de la Confédération paysanne, un de ces sympathiques. Non, vous allez voir. Surprise, jusqu'à 16h dans la basse, j'y suis, la force des idées.
C'était un petit producteur qui travaillait la terre avec son cœur. Comme son grand-père agriculteur, il était fier sur son tracteur. Bonheur, bonheur, bonheur. Oui, mais les choses ont bien changé. Le bonheur n'est plus dans le pré. Centrale d'achat Crédit Agricole, surendetté peu plus payé, subventionné v'là qui picole. La corde coule, s'est flinguée, y'a personne pour pleurer. C'est la loi du marché, tu peux pas travailler jamais. C'est comme un train en marche et tu peux pas sauter, va falloir t'allier. C'est la loi du plus fort. Tu t'écrases pas, t'es mort. C'est comme ça sur notre planète. Y'en a qui trouvent ça chouette. Moi je dis, c'est bête.
Lolé, lolé.
C'est mes parents qui ont créé ça. On sait que les parents, ils se sont fait chier là. Pas été facile, ils en ont pris plein la tête dans les années 70. Mais il y avait toujours la voiture balayée, le filet de sécurité. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui faisait que ça s'écroulait jamais. Et puis, tout doucement, après, le dogme libéral au niveau européen, il faut libéraliser. Donc, les services publics, ça fait chier. Mais là, depuis, 20 ans, c'est fini, quoi. Hein, c'est démerdez-vous, hein.
Quand tu dis doctrine, orientation.
Il y a un type qui s'appelle Friedman, Milton de son prénom. C'est économiste de Chicago, je crois. Et en fait, cette doctrine, elle a été, je pense, adoptée dans les fins 70, début 80. En Amérique, c'était Reagan. On a vu d'ailleurs la casse que ça a fait chez les farmers américains. Le fait que ce soit Clinton, quand ils sont revenus au pouvoir en 92-93, qui ont pris des lois agricoles pour faire du protectionnisme et stopper l'hémorragie. Il faut quand même le savoir. Parce que je rappelle simplement que Friedman, son premier labo, ça a été le Chili en 73. Son équipe, là, de fous furieux, là. C'est Pinochet qui les a fait venir. Et deux ans après, le pays était complètement exsangue et Pinochet les a foutus dehors, quand même. Donc on se dit que ça marchait pas. Mais ça fait rien. On y est calé quand même.
C'est-à-dire, le Friedman dont tu me parles, là, il est allé faire un tour au Chili.
Son équipe, là, ses équipes, là, ses disciples, oui, bien sûr, ils ont été appelés, enfin, je crois que c'est une notoriété publique, hein, ils ont été appelés par Pinochet, enfin, par les fous là-bas, pour s'occuper de l'économie. Et ils ont flingué l'économie chilienne en rien de temps, quoi, en deux ans. Et deux ans après, d'ailleurs, Pinochet a dû renationaliser tout un tas de trucs, hein, parce qu'ils avaient tout privatisé, quoi. Alors c'est sûr qu'il y a une minorité de mecs qui s'en fout plein les poches, ça va bien, hein. Et les autres, on en fait quoi?
Pourquoi là on est au milieu des cajots? Et comment ça se fait que tu me parles de Friedman, Milton, économiste de l'école de Chicago, ouais, au milieu des cajots et tout ça, derrière un tracteur avec une veste Solac sur le dos et un bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles?
Mais parce que tout ça est extrêmement lié, parce que le modèle économique et social dominant au niveau mondial, il est inspiré des théories de ce mec-là, quoi. C'est-à-dire, c'est la main invisible du marché qui va. Donc, le lien avec nous, il est extrêmement simple.
Ah bon, le lien entre
mais
Friedman,
oui, entre l'agriculture,
et ton verger
mais
derrière, bien sûr, dehors.
Il est simple.
Ah oui.
Bien sûr, il est facile parce que
le mec, il vit à Chicago.
Ouais.
Toi, tu es à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, et tu me dis le lien entre un économiste de l'école de Chicago et mes vergers.
Mais parce que j'habite dans un État, enfin dans un pays qui s'appelle la France, dans une Union européenne, avec des décideurs politiques qui, quand ils prennent leurs décisions de gestion, leurs décisions politiques, s'appuient sur des idées. Et nous, en Europe, c'est peut-être sûr. Hein. Et globalement, on s'est aperçu qu'à partir de 85, c'est celle qui a amené ça, l'idée. À partir de 85, tout le monde s'y est mis, hein, y compris la France. Hein. Et tout pouvoir droite-gauche confondu, hein, on est allé en voiture. Quand Delors a monté l'Europe, le projet européen Delors sur les affaires des années 80, c'était basé là-dessus. Hein. Concurrence libre et non faussée, etc., etc., hein. On enlève tout ce qui est protection sociale parce que c'est pas bien, parce que ça freine l'entreprise, parce que ça fait des charges sociales, parce que voilà. Donc, et c'est la main invisible du marché qui régule tout ça. Pour moi, le lien, il est assez simple parce que c'est la théorie économique qui a été adoptée par tout le monde.
Donc, si jamais tu dois déraciner tes péchés un jour, tu diras c'est de la faute à Friedman.
Je dirais que c'est de la faute aux responsables politiques qui ont épousé et qui ont absorbé sans trop réfléchir ces théories. Je trouve que la responsabilité, ce sont les gens qui, à partir des années 80, ont décidé que tout ce qui avait fait le socle, le fondement et le ciment de l'Europe, et le ciment des peuples après la guerre, c'est-à-dire en gros ce qui était dans mon programme du Conseil national de résistance, qui faisait où étaient les solidarités, etc., ce sont ces gens-là qui l'ont détruit parce qu'ils considéraient que la seule alternative, c'était la financiarisation de l'économie. Voilà.
D'ailleurs, est-ce que tu as déposé plainte?
Non, je n'ai pas déposé plainte. Je vais pas aller déposer plainte quand ce mec, je crois qu'il est mort en plus.
On se dirige vers la gendarmerie nationale du Pouzin pour dresser au Pandore le
portrait d'un individu socialement dangereux. Il y a le drapeau tricolore qui flotte au-dessus.
Gendarmerie nationale, veuillez patienter.
Bonjour, monsieur. Je suis journaliste pour France Inter.
Oui.
On revient de Châteauneuf-sur-Isère.
Oui, oui.
Où on a été chez un paysan qui nous a un peu dressé le portrait d'une personne dangereuse qui ravage les campagnes. Et je voulais savoir si vous aviez son portrait ou...
Pas au courant du tout.
Friedman.
Pas au courant du tout, non, pas au courant. Pas au courant, non.
Ça vous dit rien, hein, Friedman?
Non.
Milton?
Non.
Et ça, c'est, je sais, parce que vous avez des petites... des fois avec les violeurs, les meurtriers, vous avez des...
Non, on n'a rien. Non, si on avait quelque chose, je vous dis, non, on n'a rien.
Ce nom vous dit rien du tout?
Pas du tout.
Pourtant, apparemment, on en a déjà parlé dans les journaux et puis tout ça.
Peut-être dans les journaux, mais bon...
Il a un complice, entre guillemets, d'après lui, Hayek.
Non, mais ça ne me dit rien.
Mince.
Je suis désolé.
Mais apparemment, il a fait du dégât à Châteauneuf-sur-Isère, mais...
Ça ne me dit rien. Je sais pas, vous voyez peut-être plutôt sur Valence, sur le commissariat de Valence, ou sur... voilà quoi.
D'accord.
Peut-être
bon.
Qu'ils seront plus au courant que nous. Nous,
d'accord.
Ils traînent dans la campagne là-bas, ils sont peut-être plus au courant à Valence.
Non, parce c'est qu'apparemment, apparemment, ils font vraiment du dégât, quoi. Donc...
Je suis pas au courant. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Friedman. Friedman.
Pas au courant. Pas du tout.
Bon, bah, apparemment, la gendarmerie du Pouzin. On n'a pas vu passer ni Friedman Milton, ni Monsieur Hayek, quoi. Son complice qui ravage pourtant les campagnes. Il faut aller voir plutôt sur Valence. On va aller voir sur Valence. Et, on est à Châteauneuf-sur-Isère, au milieu des palettes.
Oui.
Ça, c'est quoi? C'est un genre de...
C'est des escabeaux pour monter à l'arbre. Ouais.
On est au milieu des palettes, ouais. Des petits tracteurs, et on entend parler de Milton Friedman, ouais. De libéral. Toi, t'as fait un DESS d'économie?
Non, j'ai rien fait. Moi, j'ai un brevet technicien agricole. Et en plus, je l'ai passé en alternance. Mais j'ai bossé, hein. Moi, depuis 16 ans, je travaille, hein. J'ai été salarié avant d'être agriculteur, voilà. Donc j'ai pas de DESS économie, j'ai rien du tout. J'ai réfléchi, j'ai pensé, mais c'est pas interdit de penser. Hein.
Comment Milton Friedman de Chicago, il est arrivé à Châteauneuf-sur-Isère?
Mais parce que moi j'ai un bouquin que j'appelle qui s'appelle Paysan. Je vais vous enfiler un exemplaire tout à l'heure. C'est des économistes, c'est des sociologues, des philosophes qui dans une revue agricole, hein, c'est voilà, qui font des articles. Et c'est là que j'ai découvert pas mal de choses. Puis en travaillant dans le réseau syndical, on s'intéresse, on rencontre des gens, on a rencontré des économistes, etc. Donc voilà.
Inquiétant ça, hein, inquiétant si les paysans se mettent à réfléchir. Je plaisante bien évidemment. Formidable, non, hein, Milton Friedman. Alors donc, la source de l'inspiration et des idées de Régis, entre autres, c'est cette revue et ce mouvement pour une organisation mondiale de l'agriculture. Intéressant.
Alors là, on n'est plus à Châteauneuf-sur-Isère, on est 5 quai Voltaire, en plein cœur de Paris. J'interrogeais Régis Aubenas, qui cultive des pêchers. Il me disait, bon, moi, si on me demande d'arracher mon verger un jour, ça sera de la faute à Friedman. Ça sera de la faute à Milton Friedman, dont les thèses sont devenues réalité par le biais de... donc, il citait Ronald Reagan, Margaret Thatcher et Jacques Delors pour l'Europe. Et je lui dis, mais alors, on est à Châteauneuf-sur-Isère, lui, il a un brevet de technicien agricole. Je lui dis, mais comment ça se fait que Milton Friedman et les théories néolibérales, elles sont arrivées jusque chez toi, quoi? Et là, il me montre une petite revue qui s'appelle Paysan, que j'ai là, que j'ai amené. Là, c'est le numéro de juin 2009. Et il me dit, là, par exemple, il y a un article qui est intitulé « Libéralisation des échanges et sécurité alimentaire ». Donc ça parle de ça, ça parle d'un gros mot, ça parle du protectionnisme. Et ça, c'est écrit par des gens de Momagri. Momagri, c'est le mouvement
pour une organisation mondiale de l'agriculture. Et c'est eux qui m'ont éclairé sur Milton Friedman. Alors, Jacques Carle, c'est vous qui dénoncez comme ça Milton Friedman ?
On dénonce surtout tout ce que les idées de Milton Friedman ont pu produire comme décision hâtive et très dangereuse en matière politique. Les lois du marché ne doivent pas dicter la manière dont on nourrit les populations. Alors, il y a 1 milliard d'hommes qui meurent de faim, il y a 3 milliards d'hommes qui sont sous le seuil de pauvreté, et on a des agriculteurs un peu partout dans le monde, mais aussi chez nous, qui sont dans des situations dramatiques.
Mais alors, en quoi c'est de la faute à Friedman, ça ?
Ben, c'est de la faute à Friedman, parce que plus on libéralise les marchés internationaux, plus on soumet les producteurs agricoles à des concurrences, qui sont parfois des concurrences fondées sur des dumpings environnementaux ou sur des dumpings sociaux, qui font qu'ils n'arrivent plus à tenir le coup, à moins d'avoir des aides. Et comme ces aides réduisent régulièrement, toujours sous l'inspiration de cette théorie néolibérale, qui part de l'idée qu'il faut plus qu'il y ait aucune subvention, plus qu'il y ait aucune barrière aux échanges, et à ce moment-là, les marchés s'autoréguleront. C'est exactement l'inverse qui se passera. Dans le domaine agricole, et probablement dans d'autres domaines, les marchés ne s'autorégulent pas. Il faut qu'il y ait un minimum d'intervention de la puissance publique.
Alors, Jacques Carle, j'ai regardé votre CV. Vous êtes passé par l'ESSEC, donc une très grande école de commerce. Vous avez été chargé de mission pour un secrétariat d'État, celui de Xavier Emmanuelli. Donc vous êtes quelqu'un de sérieux. En plus, c'était quelqu'un de droite, donc vous étiez d'autant plus sérieux. Momagri, j'ai vu le mouvement pour une organisation mondiale de l'agriculture pour lequel vous travaillez, fait des formations avec le FMI. Ça veut dire que maintenant, il y a des gens sérieux qui s'en prennent aux idées de Milton Friedman ?
Il ne faut pas être aveugle dans l'application de théories économiques qui sont des approches très très générales. Il faut avoir aussi une compréhension de la réalité qui aille bien au-delà de la théorie. On ne peut pas mettre l'agriculture au risque de tous les dumpings du monde.
And now, ladies and gentlemen, the Milton Friedman Choir.
Moi, le truc que je me dis, mince, c'est, on est venu là, on est venu chez un gars de la FDSEA,
ouais,
quoi. On n'est pas allé chez Gentil, la Confédération Paysanne, on n'est pas allé chez un gars qui a une parcelle en bio.
Ouais, tout à fait, exactement.
On est allé chez les méchants.
Ouais, chez les méchants, ouais. Les productivistes, les méchants, machin et tout,
Qui fout du désherbant.
Ouais, exactement, ouais.
Hein,
ouais.
Chez les gars qui votent à droite.
Pas forcément.
Chez ceux qui vont éventuellement saccager un bureau de ministre.
Éventuellement, ouais. Après, il y a l'image qui est renvoyée. Non, mais c'est plus compliqué que ça.
Non, on va chez les méchants.
Et vous tombez sur un altermondialiste, oh, machin, putain. Et tout. C'est quoi ce boulot, quoi ?
Bah ouais. Et puis en plus, c'est pas marginal. Bon, encore, t'aurais pris ta carte, il le saurait pas trop. Et puis tu serais assis au fond de la salle pour venir applaudir un coup de temps en temps. Mais bon, puis au bout d'un an, t'aurais décidé de changer de syndicat, de te rendre compte quand même que t'étais vraiment chez les méchants et qu'il fallait que t'ailles chez les gentils, la Confédération paysanne, quoi. Bon, t'aurais compris que c'était pas ta place. Mais là, à la place, non, t'es cadre de la FDSEA.
Ouais.
Hein, t'es le dirigeant dans la Drôme, des fruits et légumes.
Ouais, c'est des fruits, ouais.
T'es là, congrès avec Bruno Le Maire, tu vas aller parader à la tribune.
Ouais.
Bon, à côté du ministre.
c'est même pas un marginal, c'est même, ils savent qu'il est là, quoi. Ouais, puis là, il tient des trucs sur Milton Friedman, le libéralisme, il faut sauvegarder les acquis de 45. Non, mais bientôt, on va te retrouver à côté de Xavier Mathieu dans les manifs, bras tendus, pour défendre les contis, paysans, ouvriers, même combat, quoi.
Tout à fait, exactement.
Et je me dis, mais la FNSEA, ils t'entendent, dire ouais, mais, protectionnisme, mais Milton Friedman, Reagan, Thatcher.
Mais à la FNSEA, il y a plein de mecs qui pensent comme ça.
Mais ils t'ont pas exclu, là?
Non, non, pourquoi ils m'excluraient? Qu'est-ce qu'elle a dit, la Fédération des producteurs de fruits, à le maire? Ils ont demandé un coefficient multiplicateur. Je veux dire, c'est un peu bolchevique, cette affaire-là.
C'est-à-dire que, bon, les supermarchés, ils n'ont pas le droit de multiplier par plus que deux, par
voilà,
exemple.
L'idée, c'est ça. C'est, on encadre les marges.
C'est bon, l'URSS, quoi.
Ben non, c'est pas l'URSS. Un truc comme ça, c'est dans les années 70, sur les fruits et légumes, ça existait déjà. Hein.
Écoutez ça, l'histoire est sans appel. Il n'y a à ce jour aucun moyen pour améliorer la situation de l'homme de la rue qui arrive à la cheville des activités productives libérées par un système de libre entreprise. Bon, petite phrase anonyme, comme on en entend beaucoup, des activités productives libérées par... Ah, libérées. Nous y voilà, libérées. Eh bien, c'est cette libération-là. C'est cette libération-là qui a entraîné tout ça, c'est-à-dire la suppression de toute barrière, de toute protection, de tout contrôle, en principe, dans les principes, qui a entraîné cette dérégulation et qui a entraîné tout simplement le contraire de ce qui était promis, c'est-à-dire le triomphe du plus fort et le triomphe du renard libre dans le poulailler libre, ce qu'a compris Régis Aubenas, paysan à Châteauneuf-sur-Isère, Drôme.
Enfin, tu vois, tu dis, Friedman et ses copains, ils ont tout détricoté, ouais. Ils ont tout... Mais qu'est-ce qu'il y avait avant?
Il y avait un coefficient multiplicateur qui disait que à chaque intermédiaire de la filière, c'était 1,2. Chacun prenait 20%, tac, 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 tac.
Chacun, c'est qui alors?
Chaque intermédiaire, donc il y avait le producteur qui vendait, mettons, 1 franc. L'expéditeur, il prenait 20 centimes. Le grossiste, il prenait 20 centimes. Et puis le mec, au détail, globalement, il prenait ses 20 centimes. Voilà. Donc on avait quelque chose où les marges étaient à peu près réparties. Globalement, ça se régulait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le produit, il part de la station. Le prix se fait sur l'autoroute, bien souvent. Jusqu'au dernier moment. Et même parfois...
C'est-à-dire qu'on vous appelle au téléphone et on vous dit finalement...
Voilà, il y a des programmes qui se font. Voilà, aujourd'hui, il y a 40 palettes qui partent pour n'importe quoi, pour Système U. Bon. Le prix est globalement, on va dire qu'on va tourner à peu près 1 euro. Mais peut-être qu'entre le moment où ils s'étaient mis d'accord sur 1 euro et le moment où ça va arriver dans la centrale, ça sera peut-être plus ça. Peut-être que la centrale va dire, bon, finalement, là, vous allez me faire 10 centimes aujourd'hui. Ou peut-être qu'une fois que même le prix aura été déterminé et défini, deux semaines après, ça c'est Sarko, ça. Loi de modernisation économique, LME, loi Michel-Édouard, Leclerc-Michel-Édouard.
LME, loi de modernisation économique.
C'est fait Leclerc, Michel-Édouard. C'est la distribution qui a fait ça, la négociabilité du prix. C'est-à-dire que le prix est négociable tout le temps. Même une fois que vous avez vendu, que le prix n'est plus chez vous, qu'il s'est consommé et compagnie, ben, ils peuvent encore renégocier le prix. Ça s'appelle la négociabilité.
Ils peuvent te rajouter 10 centimes aussi. Ils peuvent dire,
ça marche pas comme ça. Pourquoi eux, leur truc, c'est pas de rajouter 10 centimes, c'est de prendre un maximum de marge.
Ouais, ils se disent, bon, on a vu, vos pêches, elles sont belles.
Non, mais c'est pas comme ça que ça marche.
Ah bon?
Nous, cette année, les pêches, ils nous ont payé 89 centimes. Nous, notre prix de revient, c'est 1,10 €. Pourtant, on les a vendus 89 centimes. On n'avait pas le choix.
Donc, vous avez perdu 21 centimes par kilo.
Ouais, c'est ce qui fait les 75 000 de pertes.
Mais tu ne pouvais pas aller voir Système U et lui dire, bah, regardez, mes pêches, elles sont belles.
Ouais, mais ça, c'est pas le genre, Système U. Mais Système U va me dire, ouais, et puis après, moi, j'en ai autant que je veux, deux fois moins cher quasiment. Donc, dégage. Les Espagnols, ils vendaient 30 centimes au moins que nous. C'était le prix du marché. Non.
Quand est-ce qu'on a détricoté ce coefficient multiplicateur? Quand est-ce
86.
Qu'on a...
86. C'était une réforme, la loi Galland. C'était 86, ils ont enlevé ça. Parce qu'au niveau européen, il fallait construire, il fallait donner des gages. Hein. Faut pas se la raconter. Hein. Je me souviens, c'était en 80... c'était 86. On avait fait un voyage à la Commission européenne et on avait vu les fonctionnaires qui préparaient la réforme de la PAC. Donc c'était 96. Ils nous avaient prédit fin des quotas, fin de toutes les aides agricoles sur les céréales, etc. Fin de tous les mécanismes d'intervention. En 96, Ils étaient en train d'écrire, en fait, ce qui va se passer, ce qui est prévu en 2013. On sait tous qu'en 2013, tout ça s'arrête. Donc, en fait, la décision et le montage technique et, on va dire, le processus qui va arriver en 2013 à la fin de tout ça, c'était en 96. Les gars, ils travaillaient dans les... On avait vu des chefs de service, ils sont nombreux, la commission, en agricole. On avait vu le mec du lait. Il nous avait dit, voilà, le lait, c'est ça. Nous, on n'y croyait pas. On pensait que c'était pas possible. Moi, ça m'avait marqué, ça.
Et les mecs... Là, les mecs à la commission, c'était une armée de Milton Friedman.
C'était, voilà, une armée de types qui étaient calés là-dessus. Et c'était, mais ils étaient sûrs, ils en étaient convaincus, quoi.
Plus aucune régulation.
Non, oui.
La main invisible du marché.
C'est clair. Mais clairement, et ça, c'était 96, je m'en rappellerai toujours.
Donc il faut 17 ans pour mettre les idées de la Commission européenne, ouais, en application de l'agriculture française. Mais il a fallu 20 ans entre les théories de Milton Friedman, ouais, au milieu, voilà, des années 70, voilà, et la décision de l'Union européenne, voilà. Il a fallu 20 ans pour que les idées de, voilà, Milton Friedman deviennent, voilà, réalité en matière, voilà, d'agriculture.
Et aujourd'hui, quand on discute avec les mêmes personnes au niveau de la commission, ils sont de toute façon toujours calés là-dessus. Hein.
Toujours au garde à vous quand Milton Friedman
ils y passe. Ils sont calés là-dessus. Il n'y a pas d'autre alternative possible.
Il citait Ricardo, il citait Smith, Friedman, il citait Hayek.
Ils citaient pas ces gens-là parce que eux, ils étaient dans l'action, hein. Ils étaient en train de monter leur truc, mais derrière, voilà, en bossant un peu après, on dit tiens, mais pourquoi il dit ça, etc. Ouais.
En bossant un peu, après, t'as fait le lien entre ce que te racontait le mec de la Commission européenne et Friedman et Hayek, voilà, et Ricardo.
J'ai essayé de réfléchir. Puis après, on tire un petit morceau de ficelle et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Et je me dis que tout ce qui se passe, tel que ça se passe, c'est pas le fait du hasard, quoi.
Friedman.
Pas au courant du tout, non, pas au courant.
Friedman.
Friedman.
Vous avez pas de prénom, Friedman?
Pas au courant, non.
C'est la force des idées, c'est qu'on a pas besoin de savoir qui est Friedman, voilà, pour être friedmanisé.
Exactement.
Quoi.
Pas au courant, non.
Vous avez eu raconté ça, Bruno Le Maire, là, jeudi, à votre congrès, que c'est la faute à Friedman, qu'il faut arrêter avec le libéralisme, qu'il faut mettre des protections, des barrières douanières.
Oui, bien sûr, je voulais dire, mon discours d'introduction du congrès, ouais, c'est ça, le corps de mon discours, c'est ça. Mais oui, bien sûr, je lui ai dit ça. Je lui ai dit qu'il faut des prix encadrés, je lui ai dit qu'il faut des prix minimums, en cas de crise, fixés par l'État. Ça marche, hein, ça a déjà fonctionné. Je dis qu'il faut mettre des barrières pour tout ce qui est produit qui ne sont pas aux normes environnementales et tout. Donc voilà, oui, bien sûr, je vais lui dire ça. Et je vais le dire à lui, mais je le dirai, comme je le dis, à mes députés, à mes sénateurs, à qui il veut bien me parler. Ouais. Mais je ne suis pas le seul, hein. Il y a plein de gens qui le disent. Bien sûr qu'il faut réguler, bien sûr qu'il faut encadrer, bien sûr qu'il faut protéger. On a une protection sociale en France. Tout le monde semble y être attaché. Enfin, les citoyens, en tous les cas, les gouvernants, c'est autre chose, mais les citoyens, ils sont attachés. Pourquoi on n'aurait pas une protection économique? Pourquoi on ne pourrait pas travailler là-dessus? Pourquoi on va laisser détruire des emplois qu'on ne retrouvera jamais? Pourquoi on va laisser augmenter le chômage de masse? La France, c'est pas ça. Enfin, moi, de ce que j'en avais compris, en tous les cas. Quand je pense devant la mairie ou un truc comme ça, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Pour moi, ça reste quand même quelque chose d'important. Et je considère qu'aujourd'hui, les théories économiques et le fonctionnement économique s'attaquent à ces trois principes. Donc oui, je vais le dire à Le Maire, ça, oui, bien sûr. Alors, il y a quelques années, ça passait un peu, bon...
Ça faisait un peu bon...
Ça faisait un peu le mec, qu'est-ce qu'il vient nous emmerder avec ces trucs-là. Donc aujourd'hui, on entend... oui, il y a un écho. Parce que de toute façon, tout le monde se rend bien qu'on va dans... On se rend compte qu'on va dans le mur, quand même. Donc après, la question est de savoir si on peut pas bifurquer, quoi.
Libéral, oisif extrêmement vénal. Ça fait des années maintenant que je suis tombé là-dedans. J'ai débuté par de petites choses pour me faire la main être un virtuose. Filouterie à la feuille d'impôt, cours de planquage des lingots. Est-ce que c'est bon d'être ultra libéral? Que c'est battre, je dirais même phénoménal. C'est la meilleure idée en général depuis l'invention du capital.
Bah, 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 bah. Vous avez besoin de mon soutien, mais j'ai aussi besoin du vôtre pour que tous ensemble, nous puissions offrir à la filière arboricole l'avenir qu'elle mérite dans notre pays. Je vous remercie.
Alors là, au congrès de la Fédération nationale des producteurs de fruits, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, vient de s'exprimer. On va descendre en bas de la Seine pour lui poser une question. Monsieur Le Maire, je discutais avec un producteur de fruits qui se trouve à la tribune, Régis Aubenas, et qui me disait que dans la Drôme, les surfaces avaient été divisées par deux en matière de verger en 10 ans. Lui se demandait s'il allait continuer, et il me disait « tout ça, c'est la faute à Milton Friedman ».
Ce dont je suis persuadé, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité entre la poursuite d'une activité agricole en France ou dans les pays européens et la libéralisation totale des marchés. Et je crois que nos idées gagnent du terrain. Contre les idées libérales ou néolibérales de Milton Friedman, les idées françaises de régulation des marchés agricoles gagnent du terrain.
Mais est-ce que...
Le temps de rejoindre la gare, pardonnez-moi.
D'accord.
Mais...
Dernière question.
Il faut arrêter, là.
Est-ce que c'est pas un peu du rafistolage, quand même, quand on dit la France est à 11,32€, on va faire passer le coût à 9,29€, alors que l'Allemagne est à 6€. Est-ce qu'on n'est pas encore dans la même logique, quand même, qui est celle du dumping social?
Il n'y a pas d'alignement du tout vers le bas, puisque les conditions sociales restent rigoureusement les mêmes. C'est l'État qui prend à sa charge l'allègement pour permettre justement aux producteurs de vivre plus dignement de leur travail.
Alors la faute à Friedman ou pas?
Merci.
On ne sait pas si c'est la faute à Friedman.
C'est la faute aux mauvaises idées.
Le ministre Bruno Le Maire sort entouré de policiers et de flics DRG du Conseil général de la Drôme. Ça court dans tous les sens. Vous voulez que j'appelle un taxi, monsieur le ministre?
Oui,
ça va
bien.
Bon, alors, j'en sais pas plus sur Friedman, moi. Sur Friedman, Hayek...
Non, j'ai pas vu de Friedman, moi. Tout ce que je sais, c'est que... Ben, ça, on pourra poser la discussion. Ce que je sais, c'est que... On ne peut pas avoir de libéralisation totale des marchés, et donc il faut des règles. Voilà.
Je suis vraiment désolé, mais on a 9 chances sur 10 de...
Merci.
Voilà le bruit que ça fait un ministre qui rejoint sa gare. Je ne suis pas sûr que les limitations de vitesse seront respectées. Congrès de la Fédération nationale des producteurs de fruits. On va aller rencontrer le salon qui, à la tribune, ne portait pas de cravate. On va aller rencontrer le contempteur de Milton Friedman. On va retrouver Régis Aubenas.
Bonjour.
Bonjour. Ça va?
Alors, moi, j'ai posé la question au ministre. Est-ce qu'il fait le lien entre Milton Friedman et la situation de l'agriculture aujourd'hui? Il ne l'a pas fait automatiquement.
Mais ça ne m'étonne pas. S'il est d'inspiration quand même libérale. Et il fait partie des gens qui ont dit il faut voter le traité constitutionnel. Voilà. Il commence un petit peu à dire bon, il faut qu'on revoie le droit de la concurrence. Donc il commence à le dire du bout des lèvres parce que la situation est quand même difficile. L'agriculture se casse sa gueule, l'industrie se casse sa gueule. Et surtout bientôt les services. Voilà.
Parce que là ce qu'il propose, c'est du rafistolage. Bon, on va faire un petit coup sur exonération. Regardez, vous avez un joli label qui est là maintenant à côté. Aussi sur les produits phytosanitaires, on va plutôt s'aligner par le bas parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que nous qui soyons des bons élèves. Mais on ne touche pas à l'essentiel, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises.
Mais c'est clair. On fait du rafistolage et on dit on va moraliser les pratiques commerciales.
Il y a vachement de trucs à moraliser en ce moment. On moralise le capitalisme. Moi,
ça se met une tarte à la crème, en fait.
Mais là, on a le sentiment, il est un peu schizo, on a l'impression. Le discours est un peu schizo. Mais... Parce qu'il dit, bon, faire gaffe, parce que là, on va dans le mur. Hein, l'agriculture, ça peut se délocaliser comme l'industrie. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un marché qui est unique, mais que dans ce marché unique, bah, les normes environnementales, elles sont plus faibles ailleurs. Les normes sociales, elles sont plus fermes ailleurs. Et là, on a le sentiment qu'il se pose la bonne question. Le marché unique, mais avec des normes sociales et environnementales qui sont plus faibles ailleurs. Mais finalement, il n'ose pas vraiment se la poser complètement et il n'ose surtout pas y répondre.
Le problème, c'est que s'il se la pose complètement, ça veut dire qu'il faut qu'il explique aux citoyens. Bon, on vous a dit que le traité de Maastricht, c'était génial. On vous a dit que Lisbonne, c'était bien. On vous a dit que... Voilà. Et en fait, il va être obligé de dire non, en fait, on a fait des conneries. Il faut... Voilà. Donc, il commence à déjuger. C'est tellement énorme.
S'il se pose la question et qu'il y répond, ça veut dire il faut qu'on sorte de l'Union européenne, il faut qu'on sorte de l'Organisation mondiale du commerce.
Sortir de l'Union européenne, j'en sais rien, parce que c'est, à mon avis, beaucoup plus compliqué. Mais dire merde à l'OMC, oui. Je pense que tant qu'on n'aura pas dit merde à l'OMC, on continuera à se... Voilà. Et tant qu'on n'aura pas dit merde au dogme et à la nouvelle religion, eh ben on se fera cramer. On cramera des emplois et le chômage de masse continuera à augmenter.
Alors aujourd'hui, là, au salle Maurice Pic, au Conseil Général de la Drôme, lors du congrès de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits, est-ce que Milton Friedman il a gagné ou il a marqué un point ou il a perdu un point là?
Je pense que Milton Friedman aujourd'hui il est un petit peu remis en cause quoi, parce que je pense que le politique aujourd'hui se dit bon, il va peut-être falloir qu'on essaie. Il parle de régulation hein, et fondamentalement il a toujours gagné.
Donc Friedman n'a pas perdu aujourd'hui?
Non, Friedman je pense pas qu'il a perdu, mais il y a le doute qui s'installe. Et même chez les producteurs qui sont plutôt des gens, on va dire des entrepreneurs, des gens qui bon, ils se considèrent entrepreneurs, mais en fait, c'est des paysans, quoi. Le doute est là, moi. Je pense qu'ils doutent.
Bon, bonne fin de congrès. Vous faites quoi, là? Vous là, passez vais, à Serpillière, maintenant?
Non, je vais aller boire un coup, là, et puis je vais rentrer chez moi.
Au revoir.
Bonjour. Vous êtes en communication avec la Gendarmerie nationale. Veuillez patienter quelques instants. Nous traitons votre appel.
Secrétariat de compagnie, Jean-Chef Follon, j'écoute.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter.
Je vais vous passer une commande compagnie, quittez pas.
Je vous remercie.
Ici Gendarmerie de Romans, ne quittez pas, nous traitons votre appel. Ici Gendarmerie de Romans, ne quittez pas, nous traitons votre appel.
Allô?
Oui, bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Excusez-moi de vous déranger.
Je
suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter.
Oui.
Je me suis rendu dans votre coin, à Châteauneuf-sur-Isère.
Oui.
Pour rencontrer un agriculteur.
Oui.
Qui, bon, au cours de la conversation, m'a fait part des déprédations subies dans ses champs, après vraiment des déprédations assez importantes.
Oui.
Par une bande qu'il estime organisée.
Oui.
Autour d'une personne dont il connaît le nom, qui s'appellerait Friedman.
Oui.
Et lors de la venue du ministre Bruno Le Maire à Valence,
ouais.
Je lui en ai parlé également, et lui-même semblait au courant, donc depuis Paris, des agissements de cette bande menée par un certain Friedman.
Ben écoutez, je serais tenté de dire, moi j'arrive il n'y a pas très longtemps dans la circonscription, mais je ne suis pas du tout au courant. Donc vous me parlez d'exactions qui auraient été commises
par un certain Friedman.
Friedman, ouais.
Il aurait des lieutenants.
Ouais.
Une personne qui s'appellerait Hayek. Tout ça, je me demande si c'est pas des surnoms, parce que vous voyez, ça fait très américain, quoi. Enfin, très.
Oui, oui.
Un certain Ronald, ensuite.
Et ça fait Ronald. Oui, ça fait très américain, oui.
Et ensuite une Maggie. Donc, ça serait un peu la l'égérie de la bande, quoi, si vous voulez.
D'accord.
De ma discussion avec cet agriculteur et de ma discussion avec Bruno Le Maire,
mm-hmm.
Il s'est viré dans l'agriculture, mais également dans les hôpitaux, et il y aurait eu des plaintes aussi à la poste.
Alors, qu'est-ce que ça serait comme genre d'exaction?
Bah, des arbres arrachés, des postes qui seraient contraints de fermer suite à leur pression, des choses comme ça, quoi.
Et des bureaux de poste qui fermeraient à cause des exactions?
Ouais.
J'ai pas de connaissance de postes qui fermeraient non plus dans la région, sous la pression d'un groupe, pour les satéristes, parce que quand même, pour faire fermer une poste avec des pressions, non, écoutez, je...
Vous appelleriez ça terroriste?
Bah écoutez, je sais pas moi, si on arrive à faire fermer une poste qui est quand même une représentation vivante des services de l'État quand même, hein. Donc je pense que c'est une certaine forme de terrorisme, mais bon, et vous me dites même au niveau des hôpitaux.
Oui, apparemment, ouais, des services qui fermeraient suite à leur pression, enfin je sais pas trop, surtout dans les campagnes apparemment, mais...
Écoute, personnellement, j'étais pas du tout au courant de ces faits, ni de... voilà. Donc écoutez, un arboriculteur de Châteauneuf-sur-Isère vous aurait fait part d'exactions commises par une bande organisée en gros autour de nommé Friedman, avec des lieutenants Hayek, Ronald et une nommée Maggie, qui sévirait en arrachant les arbres donc des arboriculteurs, qui s'attaquerait donc et qui obtiendrait quasiment, qui irait jusqu'à obtenir la fermeture de certains bureaux de poste à cause des pressions qu'ils feraient. Et bon, ça serait connu, y compris des plus hautes autorités, puisque M. Bruno Le Maire en serait au courant.
Voilà.
Comme quoi, c'est bien, hein, M. le ministre est au fait des affaires plus que... C'est bien. Écoutez, pour l'instant, je vous dis franchement, là, j'ai mes adjoints qui sont à côté de moi, qui font aussi des yeux très surpris, parce qu'eux non plus n'ont pas connaissance de...
Ils n'ont pas entendu parler de ce Friedman.
Non.
D'accord.
Non. Vous n'avez pas de prénom, Friedman?
Certains Milton.
Oh, mais c'est les Américains qui débarquent, là.
Bah
Friedman,
oui.
Milton, Ronald, Maggie, Milton.
Bon.
Bon. Merci. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Merci.
voilà le travail. C'était un reportage de François Ruffin avec Pierre Souchon. Merci à Régis Aubenas, Dominique Laffaire et Jacques Carl. Et ce reportage, comme beaucoup d'autres, vous pouvez le retrouver sous la formule écrite dans Fakir, le journal de François Ruffin. À noter aussi le livre de Naomi Klein, La stratégie du choc, publié en 2008 par les éditions Actes Sud, où il est largement question de Milton Friedman. Toutes les informations sur le site de France Inter sont à votre disposition à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter l'émission sur là-bas.org également, la-bas.org. Arnaud Caillet, Ludovic Asselot étaient à la technique aujourd'hui. Coy Nguyen et Raphaël Moutert ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebotte. Et Catherine Pinto attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Friedman. Friedman.
Pas au courant. Pas du tout.
Bonjour, c'est Eva Bétan. Vous avez envie d'être jurée du Livre Inter, présidé cette année par Catherine Clément ? Alors écrivez-nous, parlez-nous de vous, de vos lectures. Vous avez jusqu'au 19 février inclus pour proposer votre candidature. Livre Inter, France Inter, 75 220, Paris CEDEX 16.
Voilà, il va être 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Claire Briguet-Lamarre. Salut!
Ils en ont assez, les enseignants de l'Académie de Créteil en région parisienne, et ils défilent en ce moment dans les rues de la capitale pour demander plus de moyens après deux agressions en 15 jours dans des établissements du Val-de-Marne. La dernière en date, c'était hier au lycée Guillaume-Apollinaire à Thiers. Ce matin, les profs ont d'ailleurs refusé de faire cours et ils remettent ça demain. En revanche, les cours vont reprendre au lycée Chériot à Vitry-sur-Seine où ils étaient suspendus depuis début février. De son côté, Luc Châtel, le ministre de l'Éducation annonce des états généraux sur la sécurité à l'école. Ce sera début avril. Les Français victimes d'un accident d'autocar ce matin en Italie vont être rapatriés dès ce soir par avion. Trois personnes sont mortes, dont un adolescent de 13 ans. Il s'agissait d'un voyage scolaire avec des élèves de Ribérac en Dordogne. Le bus et ses 63 passagers est tombé dans un ravin avant de se retourner sur le toit. Le ministre de l'Éducation nationale est attendu sur place en Toscane dans la soirée. Un véritable réseau mafieux mis au jour à Toulouse. Le SRPJ vient de démanteler un gang d'escroquerie à la carte bleue. Les malfrats sont originaires de Malaisie. Les précisions à Toulouse de Frédéric Bourgade.
Chaque jour, les malfrats achetaient pour 15 à 20 000 euros de produits, des parfums de luxe, du matériel informatique, de Bordeaux à Cannes, mais aussi dans le sud de l'Espagne. Les achats étaient ensuite expédiés en Malaisie par colis. Dans l'un d'eux, les douaniers de Roissy ont ainsi récupéré, en plus du matériel, 250 cartes bancaires vierges. Les escrocs fabriquaient en effet eux-mêmes les cartes qu'ils disposaient pour cela, d'une machine thermique pour les hologrammes et de deux autres machines pour graver les cartes et les encoder avec des numéros appartenant à de vrais clients. Les voleurs ne sont donc pas de simples escrocs, mais constituent bien, pour Guy Zapata, directeur du SRPJ de Toulouse, une vraie mafia.
C'est une organisation criminelle pyramidale, hein, avec un sommet qui organise et des organisateurs qui sont chargés de récupérer les cartes, de fabriquer la carte en elle-même, de récupérer les données bancaires, récupérer les gens qui seront chargés de venir utiliser ces cartes en France.
Les policiers toulousains ont également récupéré au total 2500 cartes bancaires, soit potentiellement autant de victimes dont les comptes auraient pu être utilisés à leur insu. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Le trafic est toujours interrompu entre la France et la Belgique après la catastrophe ferroviaire hier à Halle, en banlieue de Bruxelles. La circulation des trains est aussi perturbée dans le Royaume avec la grève surprise des cheminots belges. Ils protestent contre la détérioration de leurs conditions de travail. Les évêques irlandais se disent prêts à coopérer avec la justice. Ils sont en ce moment réunis au Vatican à la demande du pape Benoît XVI. Après le scandale qui a concerné de nombreux prêtres, ils ont abusé de centaines d'enfants. Leur hiérarchie les a couverts et a gardé le silence. Aux Jeux Olympiques de Vancouver, l'épreuve de super combiné masculin en ski alpin est reportée à cause de fortes chutes de neige. Elle était prévue à 19h. Et puis il y a du football ce soir et la partie s'annonce compliquée pour les Lyonnais. Ils reçoivent Le Real Madrid, ce sera pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Tout de suite, on est avec Frédéric Lodéon.
Bonjour Frédéric. Et bonjour, bonjour Claire.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous venons d'apprendre la disparition de Michel Glotz, impresario et ancien producteur de disques qui a été l'ami de très grands musiciens comme Maria Callas, Herbert von Karajan ou Alexis Weissenberg. Et il avait été un des personnages importants de ce qu'on peut appeler l'âge d'or du disque classique, puisque Michel Glotz a participé notamment comme directeur artistique à plus de 1000 enregistrements, dont plus de 100 gravures d'opéra pour les firmes EMI, Deutsche Grammophon, RCA Victor, Philips et Sony. Et cet ancien élève de la pianiste Marguerite Long a passé 9 ans chez Pathé Marconi, EMI, et il a côtoyé plein de grands musiciens, évidemment, et il avait ses préférés, bien sûr. Il avait aussi quelquefois des conflits. C'était un personnage haut en couleur, de fort caractère, la voix qui pouvait devenir assez tonitruante, mais d'une très grande sensibilité, d'une très grande connaissance de la musique aussi. Michel Glotz, c'était un peu, je sais pas, le grand moment de, non pas seulement de l'imprésariat, parce qu'il préférait ce mot d'ailleurs, agent artistique comme on dit aujourd'hui, enfin, toute une époque de grands solistes, de disques qui foisonnaient, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui, même s'il y a toujours beaucoup de musique. Et puis il avait consigné ses souvenirs dans 2 livres, alors le premier, un titre un peu ronflant, Révéler les dieux, sans majuscule quand même, un dieu, et puis le dernier, c'est La note bleue, une vie pour la musique, c'est chez Jean-Claude Lattès, Michel Glotz, donc, et le premier, c'était chez Robert Laffont, avec une lettre préface d'Herbert von Karajan, qu'on va entendre tout de suite. Ils étaient très complices, il faut le dire. Moi, je l'avais constaté à Berlin lors d'un enregistrement. Ils s'amusaient comme des gamins parfois, tout en écoutant quand même très attentivement les enregistrements. Mais enfin, bon, ils s'amusaient, ils s'entendaient absolument magnifiquement. Et Michel Glotz a été le conseiller artistique, le conseiller musical de Karajan depuis un certain temps jusqu'à sa mort. Il a accompagné un très bon moment de son existence. Et voici, depuis 1976 précisément, d'ailleurs, en fait, quand Karajan l'a nommé superviseur de ses enregistrements chez Deutsche Grammophon. Voici donc par Karajan un extrait de l'Allegro Moderato de la 8e symphonie dite inachevée de Franz Schubert.